misérable que je suis. Qui est-ce qui a dit ça? Ah, je vous ai piégé là. Non, ce n'est pas les misérables. Ce n'est pas Jean Valjean. C'est Paul lui-même qui dit « Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps ?» Ce matin, je voudrais vous parler au sujet d'un texte qui est dans Romains 7. Oula, c'est un peu petit. Bon, enfin, vous pouvez prendre vos Bibles. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel, vendu au péché. Car je ne sais pas ce que je fais, je ne fais point ce que je veux et je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Dis donc, moi-même je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Vous allez entendre ce. M'arrive-t-il de faire le mal que je ne voudrais pas? M'arrive-t-il de ne pas faire le bien que je voudrais faire? Est-ce que j'ai du regret? Est-ce que j'ai de la déception dans ces moments-là? Voire parfois du remords ou même du dégoût avec moi-même. Est-ce que Paul ici, il parle de ses luttes? Je pose des questions pour vous éveiller à ce que je vais dire par la suite. Est-ce qu'il l'a fait, quand il a écrit cela, comme il le ferait dans un journal intime, où je dis tout ce qui m'arrive, tout ce qui se passe? À qui s'adresse Paul? Est-ce qu'il s'adresse à des croyants ou est-ce qu'il s'adresse à des non-croyants? C'est un peu la question que je vais nous poser ce matin. Alors la lettre aux Romains, c'est une lettre qui est dense, il y a beaucoup de choses et qui est énorme. Et il y aurait beaucoup de choses à dire, mais je veux me concentrer vraiment sur quelque chose en particulier. Paul, il a été empêché d'aller à Rome. Il avait un vif désir d'annoncer l'évangile et de communiquer quelques dons aux Romains. On lira la suite un peu plus tard. L'origine du péché est en Adam. Par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Le péché est rentré au travers d'Adam, on connaît bien l'histoire. Il a mangé du fruit défendu, il a désobéi à Dieu. Et donc, à ce moment-là, le péché est entré dans l'humanité. Donc la responsabilité, on pourrait dire aujourd'hui, mais elle est sur Adam, pourquoi elle serait sur nous? Il a désobéi, mais la Bible dit, par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs. Donc, il y a un héritage du péché. Parce qu'il y en a un qui a péché, et bien par filiation, on est tous d'Adam. On est tous d'origine d'Adam, on a le péché en nous qui est porté dans notre corps. Il est question de l'universalité du péché, il n'y en a pas un qui peut se dire que moi je suis sans péché, même le plus bon, le meilleur d'entre nous, ou de l'humanité qui pourrait se prétendre avoir été toujours juste, le péché est en lui. Verset 12, tous ont péché. Et au travers du péché, il y a une puissance. La puissance que le péché a, c'est la mort. Par le péché, la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes. Donc parce que nous avons le péché en nous, la mort est aussi sur nous. Et donc un jour, nous mourrons. Donc il était question du péché, et maintenant, dans Romains 5, de la mort. La puissance de la mort. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. Mais il n'en est pas du don gratuit comme de l'offense, Car si par l'offense d'un seul, il en est beaucoup qui sont morts, à plus forte raison, la grâce de Dieu et le don de la grâce venant d'un seul homme, Jésus-Christ, ont-ils été... Oups, il me manque un bout du verset. Tandis que le don gratuit devient justification après plusieurs offenses. Si par l'offense d'un seul, la mort a régné, par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul. Ainsi donc, comme par un seul, une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes. De même, par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Il y a une puissance, donc la puissance de la mort. La mort a régné. Donc on a la mort qui règne encore aujourd'hui, depuis Adam jusqu'à Moïse. Même ceux, sur ceux qui n'avaient pas péché, par une transgression qui était semblable à celle d'Adam. Par l'offense d'un seul, la mort, donc le péché, mais aussi la mort, a régné sur nous tous. Quelle responsabilité sur Adam, on pourrait dire. Donc il y a un grand problème. C'est qu'aujourd'hui, je suis né aussi d'Adam, et donc j'hérite de cela. Beaucoup de gens n'aiment pas ça. Ils se disent, mais non, je ne crois pas en Adam et Ève, parce qu'on parle du péché, et pourquoi je porterai aussi le péché qu'Adam et Ève? Donc le mieux, c'est de ne pas y croire. Je vais croire à la préhistoire ou à autre chose, à l'évolution. Mais le fait d'enlever ça, d'une certaine manière, c'est d'enlever la culpabilité du péché qui est sur nous, d'enlever ce qui est entaché en nous et que je ne peux pas enlever. Et la grosse question qu'on pourrait se poser et que l'humanité se pose, comment sortir d'Adam? Comment pouvoir sortir de ce qui fait de nous des êtres pécheurs et qui sont empreints de la culpabilité dans notre conscience, pour être juste, pour être parfait, pour pouvoir vivre éternellement? C'est impossible, parce que la mort s'est étendue sur tous les hommes et que personne ne pourra y échapper. Mais à ce problème, il y a un principe. C'est comme le principe de la gravité. Si je pense au boulet, que je le mets ici et que je le laisse tomber, il va aller par terre. Si je le reprends, il va de nouveau aller par terre. Si je le reprends encore, il va de nouveau aller par terre. Et donc, il y a un principe aussi dans le royaume de Dieu. Et Dieu, quand il donne des principes, elles sont stables et elles ne bougent pas. Elles sont et elles le seront tout le temps. Donc, la mauvaise nouvelle, c'est que je suis né en Adam et à cause d'un seul homme, du péché, la mort. La bonne nouvelle, c'est qu'il faudrait qu'il y ait une seule personne qui prenne la justice et qui prenne tout ce mal pour avoir la vie. Et donc on sait que Jésus a pris cela à notre place. Donc puisqu'il y a un seul qui a la responsabilité de tous, en quelque sorte, grâce à Jésus, nous pouvons porter sa justice et ainsi avoir la vie. Versets 18 et 19. Par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes. Par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie, s'étend à tous les hommes. Par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Donc on a parlé du péché et de la mort. Je vais assez vite parce que je ne veux pas trop m'étendre. Il est question dans Romains 5, donc je suis revenu un peu en arrière de ce qu'on a lu en Romains 7 par rapport au fait de savoir si ce que je fais parfois il me semble faire des choses que je ne voudrais pas ou il me semble faire des choses... pas faire des choses que je voudrais. Donc dans Romains 7, il est question de la loi. Et puis dans d'autres versets aussi. Ignorez-vous, frères, que la loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il vit. Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant. Mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qui le lie à son mari. Si donc, du vivant de son mari, elle devient la femme d'un autre homme, elle sera appelée adultère. Mais si le mari meurt, elle est affranchie de la loi de sorte qu'elle n'est point adultère en devenant la femme d'un autre. De même, mes frères, vous aussi, vous avez été par le corps de Christ mis à mort en ce qui concerne la loi pour que vous apparteniez à un autre, à celui qui est ressuscité des morts, afin que nous portions des fruits pour Dieu. Car lorsque nous étions dans la chair, les passions des péchés provoquées par la loi agissaient dans nos membres de sorte que nous portions des fruits pour la mort. Mais maintenant, nous avons été dégagés de la loi, étant morts à cette loi sous laquelle nous étions retenus. Il me manque encore un morceau. Ok. Quelqu'un aurait le verset 7. Il manque le début. Voilà. Et le péché saisissant l'occasion, merci, hein, produisant en moi par le commandement toutes sortes de convoitises, car sans loi le péché est mort. Pour moi, étant autrefois sans loi, je vivais. Mais quand le commandement vint, le péché reprit vie et moi je mourus. Ainsi, le commandement qui conduit à la vie se trouve pour moi conduire à la mort. Car le péché saisissant l'occasion me séduisit par le commandement et par lui me fit mourir. La loi donc est sainte et le commandement est saint, juste et bon. Ce qui est bon a-t-il donc été pour moi une cause de mort ? Loin de là. Mais c'est le péché afin qu'il se manifestât comme péché en me donnant la mort pour ce qui est bon et que par le commandement, il devint condamnable au plus haut point. La loi révèle le péché. Or, la loi est intervenue pour que l'offense abonde. C'est comme un interrupteur, ça a allumé la lumière pour voir le péché. Que dirons-nous donc ? La loi est-elle péché ? Loin de là, mais je n'ai connu le péché que par la loi. Car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi nous dit « tu ne convoiteras pas ». C'est comme les panneaux d'indicateurs de vitesse. Quand je suis sur la route et qu'on voit des panneaux d'indicateurs, on peut voir la vitesse à combien je roule. Et donc tout de suite, parce qu'il y a ce panneau, je sais à combien je roule, je sais si je vais enfreindre la loi. Parce que la limitation est par exemple à 70. Et si je roule à 70 au lieu de 50, j'ai passé le panneau indicateur. Et donc, je suis conscient que je suis en train d'enfreindre la loi. Si le panneau, il n'y est pas, à la limite, bon, le panneau indicateur, il était au début, je ne l'ai pas vu. Et puis, je roule, et puis à la limite, je n'ai pas vu, j'ai pas enfreint la loi, d'après moi. Donc, les panneaux indicateurs nous permettent de révéler cela. Et donc, il y a un jugement et une condamnation. Et donc, c'est ce qui permet que la justice de Dieu s'exerce sur tous les hommes. La loi amène le jugement, amène la condamnation, et donc tous les hommes seront jugés. Et c'est plus... la loi, ce n'est pas juste quelque chose que je découvre à un moment donné. Est-ce que je fais bien, est-ce que je ne fais pas bien? Mais c'est quelque chose qui est continu. Le verset 1 nous dit « La loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il vit, depuis que je nais jusqu'à ma mort. » Donc ce n'est pas une garde à vue, c'est plus qu'une présomption d'innocence, mais nous sommes rendus coupables dès notre naissance jusqu'à notre mort. Il est question dans ce passage que la loi, elle est bonne. Jusqu'à la loi, le péché était donc dans le monde. Or, le péché n'a pas pu être imputé quand il n'y a point de loi. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse. La loi donc est sainte et le commandement est saint, juste et bon. La loi a permis de séparer ce qui est juste de ce qui est injuste, ce qui est saint de ce qui est impur, ce qui est bon de ce qui est mauvais. Romains 6 nous parle de la grâce. Que dirons-nous donc ? Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde ? Loin de là, nous qui sommes morts au péché, comment vivrons-nous encore dans le péché ? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés, nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême de sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché, car celui qui est mort est libre du péché. Car il est mort, et il me manque encore, le 8 et le 9. Car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Il est revenu à la vie, et c'est pour Dieu qu'il vit. Ainsi, vous-même, Regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivant de mort que vous étiez et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Donc comment être justifié ? Il y a un seul acte de justice, celui de Jésus. C'est la seule manière qu'on a d'être justifié. En Jésus seul, donc, le don de la grâce est venu dans le monde au travers d'un seul homme. Et pour passer de la mort à la vie, en tout cas pour être justifié, il faut qu'il y ait une mort, il faut passer par la mort. Donc la grâce, oui, mais il faut qu'il y ait une mort. Donc d'être identifié en Christ, qui est mort et qui est ressuscité, nous permet de traverser cette mort. Et donc un acte qui est important pour chacun d'entre nous, c'est le baptême et c'est la repentance. Le fait de se repentir et d'admettre que je suis né pécheur, d'admettre qu'il y a du péché dans ma vie et de le remettre à Dieu, c'est de mourir à ma vie et de renaître aussi avec lui et de croire que Jésus me lave de tout ce péché. Donc le fait de renoncer à mon ancienne vie, de désobéir à Dieu volontairement. Ça, c'est la repentance. Ce n'est pas juste un lavement où je rentrerai dans l'eau, comme le baptême. Je rentre dans l'eau, je me lave un peu de mon péché et puis je ressors. C'est plus que ça. Le baptême, c'est un puissant témoignage de « je meurs à mon ancienne vie, je me dépouille de mon ancienne nature et je renais en Christ et je revais un vêtement nouveau. » Donc le péché, il reste dans l'eau. Mais je me revais de quelque chose de nouveau. Pour nous aujourd'hui, notre baptême, je dirais que c'est un témoignage pour nous-mêmes contre le péché. Lorsque je suis tenté, la Bible nous dit, et c'est clair, je peux résister au péché. Je peux regarder au péché et résister au péché. Non pas moi, mais l'Esprit de Dieu en moi m'aide. Donc c'est un témoignage qui nous permet de nous souvenir par là où je suis passé, je suis mort au péché. Je pense aussi que le baptême, c'est un puissant témoignage pour vraiment indiquer que le royaume de Dieu s'est approché de nous. Et je dirais même que ça permet d'anticiper, ça permet le baptême, ça c'est mon interprétation, mais je vous le dis, pour moi, je pense que ça permet d'anticiper de vivre le royaume de Dieu sur la terre aujourd'hui. Je pourrais très bien devenir chrétien à ma mort, à la fin de ma vie. Je deviens chrétien à ce moment-là, je meurs et puis je suis avec Dieu. Mais le fait qu'il y ait le baptême, ça permet d'anticiper et de dire ben, « je meurs à mon ancienne vie et je revis ». Pourquoi ? Pour vivre une nouvelle vie avec son royaume dans ma vie jusqu'à ma mort de chair et où j'irai avec Dieu. Pendant cette vie-là, qu'est-ce que je vais faire de ma vie ? Marcher avec Dieu, marcher avec son esprit. Pourquoi ? Pour témoigner au monde, pour faire des disciples, pour guérir des malades, pour délivrer des démons, pour prêcher la bonne nouvelle. Ce temps-là, il sert à ça. Donc, nous sommes morts au péché. Nous qui sommes morts au péché, comment vivons-nous encore dans le péché ? Notre homme a été crucifié avec lui afin que ce corps de péché fût détruit pour que nous soyons plus esclaves. Là, je suis esclave du péché. Je ne suis plus esclave du péché. Celui qui est mort est libre du péché. Je suis libre du péché. Le péché n'aura pas de pouvoir sur vous. Le péché n'a pas de pouvoir sur moi puisque vous êtes non sous la loi mais sous la grâce de Jésus. Ayant été affranchi, donc je suis libéré du péché, je suis devenu esclave de la justice. Et Paul nous exhorte que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Donc j'ai une nouvelle loi qui s'est inscrite dans mon cœur et qui m'enseigne à ne plus pécher. Dieu a changé mes désirs. Quand j'étais sous la loi et que j'étais sans Dieu, les désirs se portaient vers le péché parce que c'était ma chair. Aujourd'hui, cette nouvelle loi inscrite dans mon cœur me donne des désirs qui sont contraires à ceux de la loi et elle se porte vers ce qui est juste, vers ce qui est bon et vers ce qui est parfait. Donc je reviens à Romains 7. Est-ce que tu pourrais lire le verset ? Parce que je ne l'ai pas du coup. Merci. Je cherche le verset. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel, vendu au péché. Donc Paul qui parle, c'est les versets que j'ai lus au départ. Car je ne sais pas ce que je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi. C'est-à-dire dans ma chair, j'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu, selon l'homme intérieur, mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort ? Point d'interrogation, trois petits points. Et Paul qui dit « Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur ». Il a fait un exposé depuis Romains 1, 5, 6, 7, et il arrive ici et il donne une conclusion, après dans Romains 8, on le voit plus tard, mais là, il dit « Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur ». Donc la question qui se pose, est-ce que ce passage s'adresse à des croyants ou à des non-croyants ? Est-ce que ça s'adresse à des personnes qui sont justes, qui sont, pardon, saints, ou à des personnes qui sont pécheurs ? Des personnes qui se pensent qu'ils sont saints, ou des personnes qui se disent « Mais moi, je suis pécheur ». S'il parle à des croyants, parce que c'est Paul qui le dit, ok, bon, ben, il doit parler à des croyants. Et il dit en plus, à un moment donné, je prends plaisir à la loi de Dieu. Donc ça, c'est un terme chrétien. Ok, c'est bien pour les croyants. Mais si je vais un peu plus loin, on pourrait dire qu'il parle aussi à des non-croyants. Il dit que le péché est attaché à moi. Donc si le péché est attaché à moi et que dans tout ce que je viens d'exposer jusqu'à maintenant, on a dit on n'est plus esclave du péché. Donc il ne peut pas être attaché à moi. Donc il parle à des non-croyants. Et il parle du fait de batailler avec le péché. Donc, c'est que ça doit être pour les non-croyants. L'obstacle important qui est là, c'est le légalisme. Le passage, en fait, traite du légalisme. C'est-à-dire de vivre une vie en regardant par la loi, en regardant par ce qui est formel, par ce qui est légal, par ce qui est moral. C'est-à-dire seulement de regarder à ce que la Bible elle dit, mais comme une loi. C'est-à-dire, c'est-à-dire que le croyant, il va regarder à cela en se disant, est-ce que je peux ou ne peux pas faire ça ? Est-ce que je dois ou ne dois pas faire ça ? Est-ce qu'il faut ou est-ce qu'il ne faut pas que je ne fasse ça ? C'est quelque chose que je vais m'imposer à moi-même et parfois même que je vais imposer aux autres. On est sous la loi, on est sous le légalisme. Mais pour les non-croyants, même ceux qui ne croient pas en Dieu, c'est la même chose. Mais eux vont regarder à leur conscience ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. Et ils sont aussi sous une loi, sous la morale, sur une conscience, sur ce qu'on veut. Toutes les autres religions, c'est la même chose. Ils vont se condamner eux-mêmes, ils se disent pécheurs. Pour devenir meilleur, eh bien, j'ai des choses à faire. Donc je suis sous la loi. Donc vivre une vie en ne regardant sa vie que par son péché, c'est-à-dire par le prisme de la loi. Voilà, la lettre elle dit ça, donc je fais ceci ou je fais cela. Et donc le croyant, il échoue également, je viens de le dire, s'il essaye d'être bon par la loi. Le passage, il me semble, pose une autre question. Donc Je refais le récap de ce qu'il vient de dire. On a parlé du péché qui nous entraîne vers la mort. La justice, la loi, donc il est question de la loi, et de la grâce de Dieu. Et donc là, on a la parole de Dieu, ou la loi, ou les commandements. La question, c'est comment vivre une vie victorieuse. Jésus est la solution au légalisme. Son esprit a remplacé la loi. Et nous vivons avec une nouvelle façon de vivre par l'esprit. Romains 8, versets 1 et 2. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Donc l'esprit est Jésus et nous vivons en Jésus. L'esprit crée en nous de nouveaux désirs de vivre pour Jésus. Romains 8, versets 5 et 6. Ceux, en effet, qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair. Tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort. Tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Donc, pour répondre à cette question, Dieu nous encourage à vivre une vie victorieuse et de régner dans la vie. De ne pas laisser la mort régner sur nous, le péché régner sur nous, mais de régner dans la vie avec Jésus-Christ. Le péché, dans la chair, nous amène à la mort. Si je regarde à la loi, je serai toujours là-dedans. Si je regarde à Jésus, il a fait acte de justice. Et donc je vis par l'esprit. Et c'est la vie que Dieu m'appelle. Donc je regarde d'abord à Jésus et pas à la loi. Ça permet d'illustrer les passages que je viens d'exposer et de se mettre en mémoire ce que Dieu a fait. Galates 5, verset 16, et je vais conclure par ce passage. Paul dit aux Galates, « Je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. » Donc, je ne suis plus sous la loi, mais je marche par l'esprit et je ne regarde pas mon péché. Et je voudrais aussi nous encourager, parce qu'on entend souvent dire, est-ce qu'on est juste, est-ce qu'on est saint, pardon, ou est-ce qu'on est pécheur? Certains diront, ben oui, on est pécheur, puisque la Bible dit, je suis un pécheur sauvé par grâce. Il n'y a qu'un verset qui dit ça. Par contre, le fait qu'on est saint, il y a des dizaines de versets qui nous rappellent que nous sommes saints. Nous sommes saints. Nous sommes saints. 43 fois. Et donc, quand on dit à la question « Est-ce que je suis pécheur ?», nous ne sommes pas pécheurs si nous sommes en Jésus. Nous sommes saints. Dieu nous voit saints. Donc, voyons-nous saints. L'Esprit de Dieu qui habite en nous, il est saint et il nous permet de marcher par l'Esprit. Peut-être certains d'entre vous n'ont pas reçu l'Esprit de Dieu. Sans l'Esprit de Dieu, vous serez toujours sous la loi. Vous allez regarder à la parole de Dieu, mais vous allez la voir comme la loi, comme quelque chose qui vous condamne, qui vous accuse et qui finalement vous prend dans votre conscience. Si vous avez reçu l'Esprit de Dieu, vous regardez à Jésus et elle vous encourage à marcher dans une nouveauté de vie. Et les désirs sont changés et vous donne un autre avenir, une espérance. Et pour terminer, je voulais juste donner un petit témoignage. Quand je préparais ce message, j'avais un peu de mal. Je me disais, bon, on va partager quelque chose. Ok, Seigneur. Dans le fait que des fois, ça peut... Voilà, faut... le fait de méditer la parole de Dieu, ce n'est pas forcément évident à retranscrire, à communiquer cela. Et, alors j'ai du plaisir à lire et puis à recevoir des choses de Dieu, mais de les communiquer, ce n'est pas forcément évident. Donc de faire des slides, c'est génial et tout ça. Et donc je suis parti là, dans la semaine, je suis allé voir un frère. Et puis je me suis dit, tiens, avant d'aller le voir, je vais prendre du chocolat. Je suis passé à Lidl. À Lidl, je rentre. Et en sortant, il y a un monsieur qui était avec son sac, qui était juste avant moi, et qui m'interpelle. Il me dit, dites, monsieur, est-ce que vous pourriez m'emmener, est-ce que vous allez au centre de Garon? C'était à 5 minutes, même pas en voiture. Je lui ai dit, oui, est-ce que vous pouvez me prendre? Pas de souci, montez dans la voiture. Il est monté dans la voiture, et puis il me dit, ouais, parce que j'ai des problèmes pour marcher, je boite. Et j'ai une cicatrice à la jambe, j'ai 70 points, on vient de m'opérer, on m'a enlevé les points. Et donc j'ai vraiment des difficultés à marcher. J'ai dit waouh, quelque chose d'intéressant là. Et donc il m'a montré, donc c'était pas beau à voir, il a pris une corne qui a traversé, une corne de taureau. Le corbeau l'a traîné sur 17 mètres. Et l'hélicoptère est venu le chercher. Et donc il avait cette douleur qui revient régulièrement. Et donc on est arrivé presque devant chez lui, là, à 50 mètres. Je me suis dit, ben, je vais m'arrêter un peu avant. Puis dès qu'on a, je lui ai dit, écoute, je peux prier pour vous, là, pour cette butte. Il m'a dit oui. J'ai dit, on sort de la voiture, donc il sort en boitant. Douleur, tu t'en vas au nom de Jésus. À ce moment-là, il essaye, il cherche la douleur, évidemment. Et puis il fait plusieurs pas. Et puis il dit, waouh, je suis comme un jeune, là. Et puis il sentait qu'il n'y avait vraiment plus rien. Et là, je me suis dit, je suis toujours interrogé par ça, parce que je me dis, mais on peut s'arrêter là. Tiens, voilà, Seigneur, c'est Jésus qui t'a guéri. C'est Jésus. Et vraiment, je sentais que le Seigneur voulait que j'aille un peu plus loin. Et j'ai commencé à partager l'évangile, tout simplement. Poser des questions, de savoir un petit peu. Donc, il était forcément ouvert à ce moment-là. Voilà. Et puis, à un moment donné, j'ai dit, écoutez, est-ce que vous connaissez le Saint-Esprit? Il me dit non. J'ai dit, écoute, est-ce que vous voulez savoir qui est le Saint-Esprit? Ok. Est-ce que je peux prier pour toi par rapport à ça? Il a fermé les yeux, je commence à prier et je demande au Saint-Esprit de descendre sur lui. Et à ce moment-là, il commence à avoir les larmes, les yeux qui coulent, il commence à pleurer. Et là, il sentait une chaleur. Il me dit, oh là là, pourtant il fait froid, mais je sens une chaleur. Il dit, oh, j'ai des frissons, je sens une chaleur. Il y avait quelque chose de particulier qui était en train de se passer à ce moment-là. Et ça m'a étonné parce que je me dis, mais je ne lui ai pas expliqué l'évangile encore. Il n'a pas tout compris, il n'a pas tout saisi. Mais le fait de simplement demander au Saint-Esprit de venir, quelque chose qui commence à brûler en lui et qui va l'interpeller. Je lui ai donné mon numéro de téléphone et on se recontactera. Certainement, il m'a dit, oui, je vous appellerai. Et je suis parti comme ça. Alors, ça m'a encouragé. Et puis, quand je suis venu pour préparer le message, là, j'étais bouillant. Pour dire, quand on marche par l'Esprit, j'avais posé la question à Dieu, j'avais dit, j'étais un peu lassé. Mais c'est vrai que quand on est encouragé par ce genre de choses, on oublie les difficultés ou ces choses-là. Et puis on repart. Et puis c'est comme ça qu'on marche avec l'Esprit de Dieu et qu'on est encouragé. Je vous invite à vous lever. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci parce que tu es mort pour enlever le péché de notre vie. Merci parce que tu l'as pris sur toi à la croix. Merci parce que tu as dépouillé les principautés. Merci parce que tu as dépouillé la mort. Merci parce que tu as dépouillé le péché dans nos vies. Et merci parce que nous ressuscitons avec toi en Christ. Et ce n'est pas demain, ce n'est pas lorsque nous serons au ciel avec toi, mais c'est aujourd'hui que nous pouvons vivre une vie victorieuse. Seigneur, je te prie pour chacun d'entre nous. Je te prie que chacun vive une vie victorieuse et que nous marchions dans une nouveauté de vie. Merci, mon Dieu, parce que tu nous donnes des désirs nouveaux. Remplis-nous de tes désirs, Jésus, que tu as pour les hommes, pour les femmes qui ne te connaissent pas. Là où nous sommes, Seigneur, tu nous dis d'aller dans les nations. Et les nations, ça commence chez nous et ça va jusqu'aux extrémités de la terre, Seigneur. Merci parce que nous sommes en contact, partout où nous sommes, avec des gens qui ne te connaissent pas. Seigneur, envoie-nous tel que nous sommes, Seigneur Jésus. Merci parce que tu nous as donné ta force par ton esprit. Ce n'est pas par nous-mêmes, mais c'est par toi, Jésus. Sois loué, Seigneur.